Ok, ouais, tu martèles. Ben, on verra mardi prochain alors.
Voilà, c'est ça. Et on vous dit, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à la semaine prochaine.
Un moment faut y aller, au milieu de la rue y'a plus à hésiter, le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute, nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu, je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville et tu l'auras compris, le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée, le bureau de monsieur est en hauteur. Costume sur mesure, 4000, il en impose dans les couloirs.
Allô. Comme ça.
Oui, j'aimerais bien qu'on m'entende un petit peu, s'il te plaît.
Ouais, ce serait pas mal. Hein. Pour une fois qu'on a Pierre-Marie avec nous.
Oh, pour une fois, c'est vrai que ça fait très longtemps, mais quand même.
Et puis Camille, alors là, encore plus longtemps, je pense.
Oui.
C'était un vrai plaisir de retrouver ce studio et cette musique, surtout, ça m'avait manqué.
Est-ce que vous êtes bien remis du Salon Imaginaire?
Oui.
Un mois pas.
Il va falloir se reposer et faire des grandes nuits, je pense.
On va revenir dessus dans cette émission, parce que j'ai fait quelques captations audio, on va dire, pendant le salon. On causera thé avec Jean-Luc Coudu, de Banquise et Comète. Une lecture de poésie par Corinne Guiteau. Je vous réexpliquerai ça tout à l'heure. Et puis, on a aussi enregistré nos deux musiciennes du week-end qui ont un peu ambiancé le Salon Imaginaire.
Et pas que, la place du ralliement.
Ouais, Ambre Robert et
Zoé Picavez.
Voilà. Il y a une interview aussi d'elles qu'on écoutera en fin d'émission, à propos notamment de leur playlist, enfin leur programmation, un peu compositrice oubliée. Et puis, Pierre-Marie, on va faire un petit bilan avec toi.
Non, pas envie.
Bon, d'accord. Et puis Camille, on va parler de la suite.
Oui.
Et de la précédente aussi. Atelier d'écriture,
ouais,
c'est fini.
Pour revenir dessus.
De lecture, c'est plus tard.
Exactement. Voilà.
Le passé, le futur, tout ça réuni en Camille. C'est beau.
Waouh.
Donc, nos auditeurs le savent peut-être maintenant, tous les ans, à l'occasion de notre salon, on sort une anthologie, un recueil de nouvelles sur le thème de cette édition. Et là, c'est Les ailes du pouvoir.
Ça, c'est le titre de l'anthologie. La thématique, c'était les femmes de pouvoir.
Et donc, il va y avoir un club de lecture des ailes du pouvoir. Donc, on en parlera avec Camille. Oui, Pierre-Marie ?
Non, c'est bon.
Eh bien, on commence avec le premier choix musical. Alors là, c'est Camille qui nous a choisi ce titre de Suzanne. Et on reste dans le thème.
Oui.
Comment il s'appelle ce
morceau? Je suis forte comme un garçon, je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille viril. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Pareil, je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre, comme un garçon, de me laisser faire. Mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard, comme une fille. Change de trottoir, comme une fille. Marche plus vite, comme les autres filles. Ici, je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille viril. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Maman sait que je suis masculine. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile.
Une fille virile, Suzanne, dans Imaginaire sur le 101.5.
Tu pouvais couper au titre juste viril.
Si vous voulez nous faire des petits coucous sur le chat, c'est allumé. Alors Pierre-Marie, on revient sur le salon imaginaire qui a eu lieu ce week-end au salon Kurmonski.
Oula, retour dans le temps, trois jours précédents, qu'est-ce qui s'est passé? Previously, 15e édition du salon imaginaire, 6e remise du prix Heyerdahl,
eh oui.
Une soixantaine d'intervenants, le point culminant de trois actions différentes, que ça soit les ateliers d'écriture dont on parlera un peu plus tard, le cycle de conférences.
C'est pas un chat qui ronronne, c'est vraiment le ventilateur qui passe derrière toi.
Est-ce que tu veux que je le décale?
Non, mais vas-y, continue.
Alors moi, ça me change pas trop parce que j'ai l'habitude de brasser de l'air, donc ouais, là, c'est un peu la
bah
même
voilà,
chose.
Tu peux y aller.
Puis l'équithérapie est très bénéfique apparemment.
La quoi?
L'équithérapie, le soin grâce aux animaux. Enfin bref, c'était le sujet de cette année en CGE.
Ouais, parce que là, c'est un ventilateur, mais ok.
Oui.
Là, c'est plutôt de la ventilothérapie.
Et vous me laissez finir un petit peu.
De l'éolithérapie.
Parce que là, je pense que le plus important, c'était le salon, pas le ventilateur. Mais sinon, on le met à notre côté, à côté et on lui fait une interview. Il n'y a pas de souci.
Nos auditeurs auront l'impression que tu ronronnes toutes les 10 secondes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais parce que j'ai éprouvé énormément de plaisir à parler de ce salon. Et ouais. Deux jours de salon, beaucoup de choses qui s'y sont passées, une soixantaine d'intervenants, 6 maisons d'édition locales quasiment. 5 tables rondes.
Ouais, alors est-ce que pour ceux qui ont raté le salon, ça pourra se revoir ou se réécouter tout ça?
Ça pourra, toutes les tables rondes, toutes les animations ont fait l'objet d'une captation, que ça soit juste sonore ou alors visuelle, et donc tout sera retrouvable, rediffusable, enfin rediffusé et réécoutable, revisionnable sur nos réseaux, sur des versions courtes sur nos réseaux sociaux et sinon sur YouTube pour
voilà,
des
sur
vidéos,
notre chaîne YouTube en entier.
Exactement. Oui, il y avait une équipe de com un petit peu hargneuse cette année. Ils ont décidé qu'il n'y a rien qui se passerait sans l'œil de mousse coutu.
Mais c'est comme ça qu'on a récupéré les enregistrements sonores qu'on écoutera tout à l'heure, notamment nos deux musiciennes.
De Ambre et de Zoé. Parce que ça a été une vraie frustration, ça, encore, parce que c'est fait pour animer et faire venir du monde au salon, donc ça se passe à l'extérieur du salon, donc tous ceux qui sont présents pendant que ça se passe à l'extérieur du salon n'ont pas pu en profiter. Heureusement, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée géniale d'en faire un concert à la fin, ce qui n'est pas une gageure. Une gageur, je sais pas comment on dit, parce que les salons Kurlansky ont pas mal de qualités, mais un énorme défaut, c'est l'acoustique. Faire un concert dans les salons Kurlansky, on a essayé pendant 4 ans.
Ouais, on l'a déjà fait pendant 4 ans.
Oui, voilà. On l'a fait. On a admis la pollution auditive, mais sinon, on a eu du bruit. Et là, il faut avouer que Ambre est une chanteuse de talent, indépendamment de sa vocaliste, puisqu'elle a réussi à réguler l'acoustique des salons, c'était pas mal. Je disais donc 5 tables rondes, une remise du prix en présence de la nouvelle équipe municipale, puisque le prix fait l'objet d'un accompagnement avec la municipalité. Danielle Thierry, première femme commissaire divisionnaire de France qui était présente, autrice de Polar, présidente du jury policier du Festival Cinéma de Polar de Lyon, si je me souviens bien.
Et autrice de Polar Jeunesse aussi, je pense que c'est pas évident.
Oui, j'ai 6 roses à partir de 7 ans, excusez-moi. Ouais. Tout à fait. Pas mal d'auteurs qui venaient, c'était un vrai plaisir. C'était aussi le point culminant, puisqu'on en parlait des cycles. Il y avait donc le cycle d'atelier d'écriture ouvert au public, il y avait le cycle de conférences universitaires, le cycle d'atelier d'écriture à la Maison d'Arrêt, qui fait partie des missions de l'association Imaginaire, et puis quand même 12 sociétés sur le pied de guerre, prêts à toute heure, à tout moment, pour des interventions en catastrophe, parce que journée caniculaire, et oui.
Sur la place du Raimond, on avait un petit vent frais, qu'on entendra un petit peu, d'ailleurs il a été capté aussi avec le micro de la harpe.
Le samedi et le dimanche
C'était plus le dimanche.
Ok.
Il y avait 5 fresques participatives qui ont été mises à disposition du public sur la place Maurice-Saillant, donc devant les salons Kurlansky et la place du Ralliement. L'intégration d'un nouveau genre littéraire dans notre proposition, puisque nous avons pour mission de défendre la littérature dite populaire, mais elle n'est défendue que par ceux qui l'apprécient et l'affectionnent et veulent la promouvoir au sein de l'association. Donc jusqu'à présent, on était quand même très limité entre imaginaire, policier, gore, aventure, etc. Et là, la romance romantaisie est arrivée, et c'est aussi grâce à Camille, ici présente, qui a permis ça avec donc un partenariat avec les Grimoires de l'Orphée, et toujours la librairie du Renard Kelly, allié et partenaire indéfectible sans qui ça n'aurait pas pu se passer. Il y a eu quelques petits moments un petit peu drôles avec des visiteurs et puis des rencontres. Il y a eu une soirée salsa.
C'était pas partie
du festival, mais ça a bien impacté le festival. Oui. Hein.
C'est grâce à une idée de Katia, d'ailleurs.
Ouais. Katia, la Nerosa Mora, quand elle vient sur un salon, la première chose qu'elle fait, c'est regarder quelles sont les soirées salsas.
Elle a trop peur de s'emmerder avec les autres.
Du coup, elle a monté une équipe et ils sont partis une expédition au Ponce pour une soirée salsa extraordinaire.
Il y a aussi une demande en mariage pendant ce salon. S'est mal terminé, je crois.
Disons que
sinon la médiatiserait plus.
C'est sûr.
L'homme n'a pas trouvé chaussure à son pied, dirons-nous. On va dire ça comme ça.
Il avait trouvé chaussure, mais elle a refusé d'être enfilée.
Ah, c'est grave le. C'est littérature populaire. Ça passe.
Dans la métaphore, ça passe. Bon, du coup, on passe aux premières interviews. C'était Jean-Luc Oudu devant son stand Banquise et Comète, parce que depuis l'année dernière, on peut aussi acheter du thé sur ce stand.
Et c'est une maison d'édition saumuroise qui nous fait confiance et qui nous accompagne depuis 9 ans maintenant sur Banquise et Comète, tout à fait.
On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Alors on est en direct des salons Kurlansky, dimanche 24 mai. On est en compagnie de Jean-Luc Oudu sur son stand Banquise et Comète, mais aussi Camélia et Rosemary.
Oui, c'est une gamme de thé développée par mon épouse et qui évoque des grandes figures de l'histoire, alors déjà de l'histoire du thé, mais de l'histoire en général, y compris de la littérature d'ailleurs, puisqu'on a un thé qu'on a consacré à Aurore Dupin, plus connu sous le nom de George Sand.
Alors tu me disais, toi tu as un favori dans la collection?
Oui, j'ai un favori, c'est le Comte Grey. C'est la vraie recette historique de Earl Grey, qui aujourd'hui est fait avec du thé de Ceylan, alors que historiquement c'est plutôt du thé de Assam avec une parfumée à l'essence de bergamote. Et c'est le vrai petit déjeuner du gentleman qui se respecte.
Alors, il n'y a pas que du thé, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, hein, non, mais toi, Romain, tu bois du Anboni, mais c'est pas du thé.
Non, on a aussi une infusion qui accompagne les repas et leur digestion, hein, qui s'appelle Rabelais, dans laquelle il n'y a que des bonnes choses. Et Anboni, qui est un hommage donc à cette célèbre femme pirate et qui est un rooibos aux fruits exotiques, mangue et fruits de la passion.
Il y a pas mal de femmes de pouvoir, d'ailleurs, quand je regarde un peu les douze thés qui sont devant moi. Oui. Je vois deux hommes, neuf femmes.
Oui, tout à fait, parce que en fait, c'est certainement par des femmes de pouvoir ou d'influence, en tout cas, que l'usage du thé est entré dans les mœurs en Europe, hein, tout simplement.
Et sinon, si, c'est vous aussi. Vous avez du kawa.
Oui, en association avec la Griffe Boisée, qui est une marque de substitut de café, on a créé donc le kawa, qui est en fait est un substitut de café à base d'orge torréfiée. Donc c'est aussi corsé que le café, ça peut même abuser même certains spécialistes, mais ça ne contient pas de caféine, évidemment.
Alors pourquoi camélia et rosemary ?
Ce sont deux noms dérivés des noms scientifiques du thé.
Ah bon ?
Le thé est d'ailleurs une plante de la famille du camélia et inversement. Botaniquement, ce sont des très proches cousins.
Et rosemary ?
Et rosemary, c'est le thé anglais, c'est le nom anglais dérivé du camélia sinensis, qui est le nom, c'est camélia sinensis, c'est le nom officiel du thé, c'est le nom botanique du thé. Donc c'est un camélia, et sinensis, c'est pour sa prononce chinoise.
Donc ces thés, on peut les trouver quand vous êtes en salon ?
Ouais, on les trouve sur notre stand en salon et bientôt sur un site internet qui est en développement. Là, on est en train de préparer le développement parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau qu'on construit depuis quelques mois. Donc c'est encore dans son adolescence.
Eh ben merci Jean-Luc. Un mot de la fin ?
Non, un mot de la soif. oui, alors justement le thé Anboni se boit aussi bien chaud que froid. Et c'est un excellent palliatif aux chaleurs estivales qui commencent à nous accabler. Donc n'hésitez pas,
on peut faire du
thé chez nous. Si vous voulez nous retrouver de façon physique, nous serons au week-end Belle Époque au musée des anciens commerces de Douai-la-Fontaine dans près de 3 semaines maintenant pour présenter notre thé et plein d'autres surprises.
Et puisque tu parles de Douai-la-Fontaine, est-ce qu'on peut annoncer quelques animations à troglodytes et sarcophages?
Donc les 4-5 juillet, je crois, il y aura les journées médiévales. Il y aura des visites un peu spécialisées autour justement des sarcophages, hein, qui datent du début du Moyen-Âge. Et puis il y aura une troupe, des archers, un forgeron qui vont venir démontrer leur savoir-faire issu de cette période. Et nous y serons aussi. Et en septembre, nous serons aussi à Troglodytes et Sarcophages pour les journées du patrimoine, les journées européennes de l'archéologie, où nous présenterons quelques animations autour du voyage au centre de la Terre.
Super. Et Banquise et Comète, quelques nouveautés ?
Justement, à l'occasion du week-end Belle Époque de Douai-la-Fontaine, nous sortirons la nouvelle édition des Mémoires de Barnum, donc édition corrigée, augmentée et améliorée. Ce sera aussi l'occasion de reparler de Sirène, mais ça c'est une surprise dont nous ne pouvons pas tout révéler, évidemment.
Ok. Et super, bah merci Jean-Luc.
Ah, c'est un plaisir. Merci.
Je n'étais qu'une enfant, je lus jusqu'à la signature, sans ressentir le moindre émoi, sans reconnaître l'écriture, et sans voir qu'elle était de moi. Enfant, je voulus la relire, me rappeler, faire un effort. J'ai penser cela, l'écrire, mais le souvenir en est mort. Oh, la pauvre naïve lettre écrite en
C'était peut-être ma première, un événement. Jadis à ma mère ravie, je lui montrais en triomphant. Est-il possible qu'on oublie sa première lettre d'enfant? On vient tout l'on aime et l'on écrit, et puis un jour on l'oubliera de même, sa première lettre d'amour.
C'était donc Ambre Robert et Zoé Picavez, enregistré samedi après-midi sur la place du Ralliement. Vous avez peut-être reconnu le son du tramway derrière, pour les oreilles angevines les plus aguerries. Je peux pas vous donner le nom de la compositrice parce que moi aussi je l'ai oublié. C'était un petit peu ça le thème de leur programmation. Mais on en reparlera tout à l'heure de leur interview. On va enchaîner sur l'interview de Corinne Guiteau. C'est qui Corinne Guiteau, Pierre-Marie ?
Alors, Corinne Guiteau, c'est l'éditrice créatrice de la maison d'édition Voyelle.
Voilà, tout à fait.
Qui vient très régulièrement, puisque parmi les co-éditeurs, co-associés, il y a un certain monsieur Patrice Véry,
et oui,
aka l'homme au chapeau. Et c'est une maison d'édition collaborative, puisque issu aussi d'un groupe Coxyclix, très très versé plutôt dans la science-fiction cette année. Ils étaient quatre, dont Corinne Guiteau et Patrice Véry, avec Anouchka Labor, autrice et illustratrice. Et j'ai perdu l'auteur qui nous vient de Dresde.
Ouais, et Lurlu, c'était pas de la SF. En fait, Corinne va en parler à la fin de l'interview qu'on va s'écouter tout de suite. Ça avait l'air d'être plutôt du fantastique de pirates, donc ouais, faudrait que je me repenche un petit peu sur cette chose. Et Corinne, elle est aussi écrivaine, et j'étais moi en face sur le stand de Francis Carpentier, où je pouvais enfin lui acheter Le Chant des Belladones, l'anthologie de la poésie fantastique sortie chez Malpertuis depuis un petit moment. Je crois que Francis l'avait pas encore reçu l'année dernière, mais il m'avait dit... j'ai écrit un poème, un haïku, alors ça fait trois lignes, hein, dans une anthologie de poésie fantastique. Et on l'avait enregistré, ça nous avait fait un jingle qu'on avait réécouté dans cette émission après. Cette année, il avait l'anthologie, je lui ai acheté. Et là, je regarde le sommaire et je vois Corinne Guiteau. Mais j'ai dit, mais elle est juste derrière moi en fait, Corinne. Donc du coup, j'étais voir Corinne qui a écrit elle a un poème qui fait plusieurs pages. Et on a fait un petit enregistrement de ce poème. Donc on s'écoute ça tout de suite aussi sur le 101.5.
J'ai passé l'appel à texte. J'ai envoyé deux poèmes. Il y en a un qui a été refusé parce qu'il était vraiment trop hard, on va dire.
Par Malpertuis, waouh.
Ah oui, non mais j'ai su aller fort. En fait, ce poème-là est issu d'un recueil que je ne publierai certainement jamais, tellement les textes sont trash. Voilà.
Et alors donc, on retrouve dans ce recueil Le Condamné.
C'est un poème de forme plutôt classique qui traite à la fois de la vieillesse, le temps qui passe, et il y a une certaine ironie par rapport à la fin. Il était une fois, dans un pays lointain, un homme jugé comme assassin. D'apparence, il n'était pas vilain. On aurait pu lui manger dans la main. Mais c'était un fieffé coquin qui prenait à la veuve et à l'orphelin. Comme le roi était humain, il réserva au sinistre malandrin un traitement un peu particulier. Le vaurien fut conduit par le geôlier jusqu'à ses nouveaux quartiers, où on le fit se déshabiller et sur des soieries s'allonger. Qui viendrait pour l'exécuter dans un décor aussi soigné? Son sang allait-il gicler sur les murs décorés? Allait-on plutôt l'étrangler avec une cordelette imbibée? Comme ainsi il s'interrogeait, une ombre encapuchonnée par une porte dérobée était entrée. Vêtue de rouge de la tête aux pieds, son visage était entièrement caché. En la voyant, l'homme s'était redressé. « Êtes-vous mon bourreau? Cachez-vous un couteau ?» Sans un mot, l'inconnu se dévoila. Aussitôt, l'assassin succomba aux affres du plus redoutable ennemi, celui qui toujours frappe sans merci. Sans un mot, la femme se déshabilla et toute sa nudité lui montra. Le bandit subjugué resta muet, tandis qu'elle commençait à bouger en lui tendant les bras lascives. Elle l'invita comme un serpent qui danse à entrer dans sa transe. Caressant son corps de déesse comme s'il allait à la confesse, il avoua tous ses crimes, du plus grand au plus infime. Il avait vécu sans foi ni loi, apportant partout l'effroi, puis il se mit à pleurer, regrettant tous ses péchés. Entre ses larmes, il l'embrassa. L'amour et la mort font un mélange étrange, tirant le pire hors de la fange. Mais ne vous leurrez pas, cette histoire ne finit pas comme ça. À l'aube, la femme se leva. Sans un mot, elle s'habilla. Le condamné, surpris, se réveilla et voulut la prendre dans ses bras. Mais sans manière, elle le rejeta et vers la porte se dirigea. L'assassin s'étonna. « Vous ne me tuez pas ?» Tristement, elle le regarda et murmura « Meurs !» Dans l'instant, il s'écroula. Une fois franchi le seuil, la femme de sa beauté fit le deuil. Le manteau pourpre se changea en guenille, la drôlesse devint sèche comme une brindille. La jeunesse l'avait désertée, et oui, comme vous l'avez deviné, c'était la pièce qui rendait belle cette affreuse maquerelle. Celle que l'assassin avait pelotée était une vieille, tout édentée. Si ardemment il avait embrassé, chérissant ce corps tout ridé, son exécution avait consisté à s'envoyer en l'air avec Mémé.
Donc c'était un extrait de Les Chants des Belladones, anthologie de poésie fantastique trouvable aux éditions Malpertuis. Merci Corinne.
Eh bien de rien.
Quelques actus en tant qu'autrice et éditrice?
Alors en ce moment, je suis en train d'écrire des novellas pour répondre à des appels à texte, novellas plutôt fantastiques. Et en tant qu'éditrice, eh bien nous avons sur le stand une nouveauté qui s'appelle Jack au couloir sans fin ni début des choses. Et oui, vous voyez, elle se spécialise dans les titres à rallonge. Et l'auteur est venu spécialement de Dresde aujourd'hui et il reviendra aussi aux Aventuriales. Et donc c'est une histoire d'un petit personnage, Jack, qui voyage d'histoire en histoire et qui nous fait aussi voyager avec lui.
Ce sont des histoires inventées par l'auteur ou des histoires un peu connues?
Alors, on y retrouve Billy Bones dans ce roman et on y retrouve d'autres allusions aussi tout au long du livre, des classiques de la piraterie. Mais surtout, ce qui est vraiment une des grandes richesses de ce roman, c'est la richesse du vocabulaire de l'auteur et de son histoire. Et puis moi, j'ai adoré déjà rien que le début où on apprend que le petit personnage, donc Jack, vit sur les quatre mers et demi. Et moi, j'ai passé mon temps à me demander où était l'autre moitié de la mer.
Merci Corinne, et rendez-vous aux Aventuriales de Ménétrol au mois de septembre.
Exactement, fin septembre, tout à fait.
Les beaux jours vont enfin renaître, le voici l'avril endormi. Un frisson d'amour me pénètre, viens mon bien-aimé. Ils ont fumé mon soir rose, déjà le jardin parfumé se remplit d'oiseaux et de roses, viens mon bien-aimé. Soleil de ta brûlante ivresse, j'ai senti mon cœur enflammé. Plus enivrante est ta caresse, viens, mon bien-aimé. Tout se tait des millions d'étoiles, le ciel profond est parsemé. Quand sur nous la nuit met ses voiles,
toujours des enregistrements de ce week-end, Place du Ralliement, Ambre Robert et puis Zoé Picavez. Et j'ai retrouvé le nom de la compositrice, Cécile Chaminade. On en parlera tout à l'heure en écoutant leur interview. Mais maintenant, on va parler des Ailes du Pouvoir, notre anthologie et le club lecture.
Alors oui, tout à fait. Deux activités qui étaient un petit peu une première pour nous. Atelier d'écriture et club de lecture. Alors, c'est, quand je dis première pour nous, c'est entre guillemets, puisque ça fait quelques années que nous faisons des clubs des ateliers d'écriture en milieu pénitentiaire. Donc, non ouvert au public. Et là, sous l'impulsion de Jeanne Orliaguet, qui est une proche de l'association, et il y a eu cette proposition, au vu du thème, d'ouvrir les ateliers d'écriture à du public, dans des lieux qui étaient, on va dire, en adéquation avec la thématique. La thématique, c'était donc les femmes de pouvoir, et il y a sur Angers plusieurs lieux qui sont féministes, féminins, qui s'engagent dans ces questionnements-là, et notamment le salon de Défica, rue du Mail, et puis la librairie La Dévoreuse dans le tiers-lieu 8, qui sont des lieux sensibilisés à ce sujet-là et pour ce public-là. Et puis le troisième atelier d'écriture, c'est celui qui s'est passé à la bibliothèque Saint-Éloi, puisque ça faisait quelque temps qu'ils voulaient pérenniser un atelier d'écriture. Parce que ce qu'ils faisaient à la bibliothèque Toussaint, ils ont pas forcément les moyens de le transposer à la bibliothèque Saint-Éloi. Donc, comme je le disais, c'est Jeanne Orliaguet qui a eu l'idée de ces ateliers-là. Et pour pouvoir le faire dans le cadre du salon, elle-même n'étant pas sociétaire, elle a dû être accompagnée, épaulée et encadrée par un ou une sociétaire. Et c'est Camille qui a décidé d'endosser ce rôle-là. Ça tombe bien, Camille est là aujourd'hui pour en parler avec nous. Camille, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la préparation, de comment s'est monté tout ce projet-là ?
Eh bien, ça a été assez rapide grâce à Jeanne, parce qu'elle avait une idée précise de ce qu'elle voulait présenter pour l'atelier d'écriture. Donc, bon, après, on parlera du contenu ensuite, mais bon, ça a été organisé en plusieurs parties pour être sûr d'accompagner au mieux les participants et participantes. Et surtout, on peut dire que le premier atelier, c'était vraiment un test pour voir déjà comment réagissait le public face à ce qu'on proposait. Et ensuite, on a pu définir voilà, une démarche claire à suivre grâce aux témoignages tout simplement des participants et participantes du premier atelier chez FICA.
Ces ateliers sont régis sur une thématique donnée qui était déjà prévue à l'avance. Est-ce que tu peux parler un petit peu de quelle thématique, comment est-ce que vous l'avez développée, dupliquée ?
C'est-à-dire femmes de pouvoir ?
Oui, oui.
Pour parler des exercices, donc en fait, dans un premier temps, on a d'abord mis en place une première partie, donc un exercice qui était...
Là, tu pars sur qu'est-ce que vous faisiez faire aux pratiquants, mais est-ce que la thématique, c'était femme de pouvoir ?
Ah, totalement, oui.
Et donc, toutes les personnes écrivaient sur une femme de pouvoir ?
Oui, tout à fait. L'objectif, en fait, c'était de créer sa figure féminine de pouvoir. Voilà. Donc, on essayait de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent créer leur entité féminine, voilà, propre.
Et comment est-ce qu'on arrivait à ce résultat-là ? C'était des personnes qui avaient déjà écrit, c'était des personnes totalement amateurs. Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce qu'il y avait comme exercice ? Combien de temps duraient ces exercices ?
Ce qui était assez cool, c'est que on avait vraiment tout type de personnes. C'est-à-dire qu'il y en avait qui venaient avec des projets d'écriture bien définis, d'autres qui souhaitaient juste découvrir ce qu'était un atelier d'écriture et donc être en groupe, et encore d'autres qui sont venus via la thématique donc femmes de pouvoir. Les exercices, le premier exercice était assez libre en termes de temps. Enfin, l'objectif était quand même de durer 2 heures. Donc, on avait dans un premier temps une partie où on définissait ce qu'était une entité pour nous. Donc, on faisait un tour, enfin une entité féminine. Donc, on faisait un tour de table. Et c'était très intéressant de voir le process de réflexion de chaque personne sur ce qui était pour eux. Et elle, une femme féministe, enfin féminine, pardon.
Une femme féminine.
Une entité féminine, pardon, je m'en mêle. Et ensuite venait la phase d'écriture. Donc c'était à chaque fois 20 minutes. Donc il y avait c'était un exercice qui était séparé en gros en 4 parties. Donc la première, c'était d'écrire déjà physiquement son entité féminine. Ensuite, c'était au niveau caractère. Après, c'était ses ambitions, ses aspirations. Donc ça, c'était plutôt en dernière partie. Et en troisième partie, c'était j'ai oublié. J'ai oublié. Oui.
Ce qui m'intéresse, c'est que là, tu as fait une sorte de lapsus et tu t'es repris et tu nous as pas expliqué pourquoi. Quelle différence fais-tu entre une femme féminine et une entité féminine ? Est-ce que ça avait une importance dans l'atelier, cette distinction-là ?
Oui. Pourquoi ? Oui, grandement. Parce qu'en fait, la notion de femme n'était pas la même pour toutes et tous. Dans le sens où il y avait plusieurs critères pour chacun. Et donc, c'était difficile des fois même de définir ce qu'était une femme. Donc, c'était important
Là, on parle bien de juste physique, pas de biologique.
Tout à fait, oui, tout à fait. En tout cas, féminité, ouais, une femme féminine. C'était difficile de définir ce qu'était une femme féminine. Donc, on est plutôt passé avec Jeanne par une appellation entité pour éviter tout simplement de trop encadrer en fait le process de création en fait de chaque personne.
Alors justement, Stéphanie Auberon de la bibliothèque m'a dit que à un moment donné, il n'était même plus question d'anthropomorphisme et donc le principe de l'entité, c'était que c'était vraiment ouvert à tout ce qui pouvait relever de la féminité sans forcément être un humain, un humanoïde. Est-ce que c'était un choix de votre part? Est-ce que ça aurait pas été plus simple de restreindre? Pourquoi cette liberté?
Je pense que on voulait vraiment que ce soit un atelier libre. On voulait rien imposer. Et sachant que le processus d'écriture est quand même assez difficile, on voulait pas restreindre les participantes et participants.
Dans la présentation que tu as fait, il est indiqué que toi, sociétaire, je te connais bien, tu fais partie de l'ESPL et tu as une formation dans l'édition, et Jeanne est indiquée comme étant psychologue. Il y avait donc cette recherche au-delà de l'aspect juste littéraire?
Totalement. Et c'est ça qui était très riche, parce que derrière chaque témoignage des participants et participantes, on avait une interprétation de Jeanne. Donc, c'est-à-dire elle poussait en fait la réflexion derrière chaque information donnée.
C'était elle qui donnait une analyse du travail des autres?
Ah non, c'était bien sûr les participants et participantes, mais Jeanne proposait en fait une vision en fait via ce qui était donné. Elle reformulait aussi ce qui était dit pour que ça rende aussi les propos plus impactants.
Oui, donc c'était une recherche de profondeur sur l'écriture. Oui. On dit souvent que écrire c'est un acte éminemment intime. Un auteur parle avec son propre texte quand il écrit, il veut dire des choses par là. Effectivement, avoir un psychologue permet aussi de se poser des questions auxquelles on n'aurait pas pu penser au moment où on avait écrit. Est-ce que tu as des exemples où des personnes comme ça ont réfléchi à ce qu'ils avaient écrit après ces temps de parole?
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, on a eu un monsieur qui justement parlait de la figure féminine dans le sport. Et il montrait... il expliquait via son propos ce qu'était selon lui une entité féminine grâce au sport. Et ensuite, après échange, parce que c'était lors d'un échange de fin, en fait, à la fin, pardon, on a pu déterminer ce qu'était l'importance de la figure féminine dans le sport, dans la mode. Il y a eu aussi la réflexion d'une jeune fille de 12 ans qui parlait de sa figure féminine. Et donc de comment elle voyait une figure féminine, tout simplement. Et voilà.
Donc là, tu parlais donc de trois ateliers d'écriture qui se sont passés avec un public divers. Mm-hmm. Tu parles de jeunes filles, très jeunes filles, d'hommes. C'était ouvert à tout. Ça s'est passé aussi à la bibliothèque. Et là, pour continuer ça, donc c'était les personnes face à leurs propres écritures. Vous proposez un deuxième cycle, un deuxième parcours qui va donc commencer courant du mois de juin.
Tout à fait. Le club de lecture. Donc, le club de lecture, ça va permettre déjà de partager les avis de chacun sur l'anthologie, sur les nouvelles. Donc, aussi également de débattre, ce qui serait super riche. Et on propose deux dates, le 13 juin, donc qui sera le samedi, et il y a 8 places, donc c'est chez Fika, au salon de thé, et ça se situe au 70 rue du Mail, à Angers. Et la deuxième date, c'est le 3 juillet.
À quelle heure, s'il te plaît,
tu l'as pas dit. Pardon, de 9h30 à 11h30. Et ensuite, la deuxième date, c'est le 3 juillet, un vendredi. Donc voilà, après une bonne semaine chargée, c'est plutôt sympa de participer à un club. Donc c'est à la librairie La Dévoreuse, au 18 rue du Hara à Angers. Donc c'est sur inscription, les deux ateliers sont sur inscription. Il y a 15 places maximum. Et les horaires sont de 18h30 à 20h30.
Et donc là, c'est uniquement sur l'anthologie. Pourquoi un club de lecture est dirigé sur l'anthologie?
Eh bien, parce que dans l'anthologie, il y a énormément de représentations, ce qui était l'objet déjà de l'anthologie, de représentations féminines. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle prenait... on voit déjà l'évolution du pouvoir. Chacun n'a pas la même notion du pouvoir, et encore moins de l'entité féminine. Et donc, c'est intéressant de voir déjà les points de vue de chacun. Puisque quand on était déjà dans le jury pour sélectionner les nouvelles, on voyait bien que les avis divergeaient pour certaines nouvelles. Donc c'est intéressant déjà de pour ceux qui ont l'anthologie ou qui l'ont lu de débattre, de voir le point de vue de chacun. Notamment il y a une nouvelle qui faisait débat lors de la sélection du jury et au final elle a été retenue parce qu'il y a eu des avis différents des premiers. Donc, c'est intéressant.
Ça, on en parle assez peu, mais effectivement, le concours de nouvelles amateurs qu'il y a pour l'anthologie, le concours de l'ESPL, ce sont des concours sur lesquels les jurys s'écharpent un petit peu. Hein. Mmh. On est quasiment au combat à mort pour savoir quelle nouvelle est sélectionnée. Est-ce qu'il y aurait une suite à ces ateliers d'écriture et de clubs de lecture après ces deux dates ?
Oui, tout à fait. Après ces deux dates, le cycle est terminé. Mmh. Mais en septembre, il y aura une nouvelle thématique. Donc, oui. Voilà. Qui n'est pas encore dessinée. Tout à fait, décidée, tout à fait. Et donc, il y aura à nouveau, on l'espère, un cycle d'ateliers d'écriture et ensuite de clubs de lecture.
Et ça sera les mêmes personnes qui proposeront. Ça sera toujours sous la direction de l'association. Mais tu y participeras, Jeanne, aussi ?
Je ne sais pas encore.
Et donc, il faut avoir lu le recueil pour participer. Il n'y a pas de lecture de texte en direct. Et après, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas comme ça que ça se passe.
Ça peut être super intéressant. Après, la chose, c'est que ça dure deux heures. Voilà. Mmh. Et donc, l'objectif, oui, c'est d'avoir lu, d'avoir une idée déjà de ce qu'on a ressenti pour une nouvelle en particulier et d'avoir une idée de ce qu'on veut partager aux personnes qui participent au club.
Ok. La lecture de l'anthologie est un prérequis. Je ne sais pas si c'est une règle absolue, mais en tout cas, ça semble être un prérequis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé cette anthologie pendant les ateliers d'écriture ?
Oui, beaucoup.
Enfin, que tu étais.
Pardon. L'habitude des microphrases. Oui, on l'a beaucoup utilisé, notamment lorsque des personnes avaient du mal à définir son entité féminine et à créer son histoire ou même les ambitions tout simplement de son entité. Et donc, par exemple, on a pris plusieurs exemples, notamment celle de Je suis forêt de David Brie. Parce que l'entité féminine est la nature, et donc c'est intéressant de partager de partager cette nouvelle parce que ça montrait déjà aux participants et participantes que une entité, ça peut être tout ce qu'on souhaite en fait, du moment qu'on lui accorde en fait la notion d'entité féminine. Mmh.
Indépendamment du travail qui est fait sur l'écriture de l'entité féminine, l'anthologie elle-même a été bâtie sur quatre ambitions de personnages féminins qui étaient la figure féminine à travers les histoires, puisque nous avons trois nouvelles qui sont historiques ou en tout cas fantastiques historiques. Le quotidien, la vie au quotidien et comment s'en sortir, avec trois nouvelles dont une polar, une réécriture de Maigret, extraordinaire.
C'est le point de vue de sa femme. Là.
La révolte, et puis la question de la transmission et de la sororité. Donc ne serait-ce que ça, c'était quelque chose qui était déjà bien mis en place. Un petit mot de la fin ?
Restez connectés sur nos réseaux imaginaires. Et puis si vous voulez tout simplement avoir d'autres informations ou autres, si vous voulez passer du bon temps entouré de délicieuses boissons, je dois bien le dire, à échanger sur des nouvelles puissantes, offrant des représentations et des définitions variées d'entités féminines, mais aussi de notions de pouvoir, prenant place dans un cadre imaginaire ou actuel, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et du coup, la prochaine, c'est samedi 13 juin, AFICA, 9h30, oui. 11h30.
Tout à fait.
Et puis le 2 juillet, à 3 juillet, à la Dévoreuse, 18h30, 20h30.
Les inscriptions, c'est par l'imaginaire ou c'est sur les lieux ?
C'est sur les lieux, les adresses mail des lieux.
Okay.
Tout à fait, adresse mail ou alors en direct, oui, sur les lieux.
On vous attend nombreux et nombreuses.
Et on diffuse maintenant l'interview donc d'Ambre Robert et Zoé Picavez que j'ai faite juste avant leur sixième set ce week-end.
Alors moi c'est Ambre, je suis chanteuse lyrique. Et donc moi c'est Zoé, je suis harpiste et nous avons formé un duo justement dans le cadre du festival Imaginaire. C'est donc notre premier spectacle en duo.
C'est Zoé qui m'a contactée il y a peut-être un mois de ça en me disant ah bah tiens j'ai été contactée par Imaginaire pour faire un petit moment musical, est-ce que ça te dirait de le faire avec moi? Et le thème c'est les femmes de pouvoir, donc j'ai accepté tout de suite. Et de là on s'est dit les femmes de pouvoir, ça nous inspire quoi? Ça nous inspire des compositrices plus ou moins oubliées de la musique classique. Et de là, on a toutes les deux cherché des choses, chacune de notre côté, et on s'est envoyé beaucoup de choses. Et on a réussi à monter un petit programme de 20 minutes avec une exception qui n'a pas été composée par une femme. Voilà. On a travaillé les morceaux chacune de notre côté. Et on s'est vu pour la première fois il y a une semaine. On s'est vu 3-4 fois, et puis bah, le programme s'est monté petit à petit comme ça.
Ce qui est assez intéressant de souligner, c'est que en une semaine, on a réussi à avoir une alchimie musicale assez puissante, parce que c'est compliqué parfois d'être sur la même longueur d'interprétation d'un morceau. Et donc là, ça s'est vraiment extrêmement bien passé, et c'est vraiment très très chouette qu'on ait réussi à faire ça en quelques rencontres à deux.
Le programme, il a été construit autour donc principalement de compositrices. Annie Lennox, on a Cécile Chaminade, Pauline Viardot et Muriel Herbert. Et, comme je le disais, une exception, puisqu'on a choisi d'inclure dans notre programme la fameuse Habanera de Carmen, du Bizet, parce que Carmen, c'est une figure féminine puissante et importante dans la littérature et dans la musique. Moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'est mon opéra préféré, c'est grâce à Carmen que je fais du chant, voilà. Il se trouvait que Zoé avait travaillé à la harpe, donc ça tombait bien. Donc on a choisi de l'inclure, mais l'essentiel de notre programme se concentre quand même autour des compositrices.
Et pour parler un peu de ces compositrices, justement, Muriel Herbert, c'est une compositrice américaine, britannique, mais qui est aussi partie aux États-Unis. Elle, c'est plutôt le début 20e. Elle a mis en musique beaucoup de poèmes, notamment des traditionnels irlandais. Donc, le morceau qu'on a joué d'elle, The Lake Isle of Innisfree, c'était un poème traditionnel irlandais. Elle en a mis beaucoup en musique, aussi certains poèmes écossais, et elle a eu l'autorisation personnelle de James Joyce, donc écrivain moderniste, pour justement mettre en musique une grande partie de son œuvre. Ensuite, nous avons Pauline Viardot. Pauline Viardot, donc très proche du cercle des romantiques français, notamment grande amie de George Sand. Et Pauline Viardot, elle a aussi inspiré beaucoup, beaucoup de compositeurs de son époque. Bizet, par exemple, et Saint-Saëns ont été certains de ses professeurs. Et nous avons aussi Cécile Chaminade, qui, elle, est beaucoup moins jouée maintenant. On l'entend un peu moins que les autres parce qu'elle a eu moins de soutien dans sa vie. Il me semble que son père était pas très d'accord pour que elle, en tant que femme, elle soit, à l'époque, c'était, donc c'est aussi 19e, et à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de jouer en public. Donc, là, Cécile Chaminade et Pauline Viardot. Pauline Viardot, un peu moins grâce à son cercle d'artistes, jouait par exemple dans les églises, mais derrière des paravents, pour qu'on ne voit pas que c'était des femmes qui jouaient. Et donc, dans le cadre de Cécile Chaminade, qui avait moins de soutien, pas beaucoup moins, mais quand même quelque chose de moins grande influence et de moins grande renommée, sa musique s'est un peu plus perdue. Alors que Pauline Viardot, par exemple, son portrait est exposé au Musée de la vie romantique de Paris, parce que donc Harry Schaeffer, qui faisait aussi partie du cercle des romantiques, était assez proche d'elle. Et pour Annie Lennox, c'est une compositrice actuelle, contemporaine, et nous l'avons inclue car elle a fait le générique de fin du Seigneur des Anneaux et qui se porte sur les figures des elfes et les figures féminines, en tout cas dans l'univers connu de Tolkien, sont majoritairement des elfes et c'est une musique qui retranscrit beaucoup leur puissance et leur influence dans l'univers et ça nous permettait de faire le lien avec l'imaginaire.
Est-ce qu'on peut parler de vos projets, vos autres projets musicaux ?
Là, avec Ambre, on a un duo qui fonctionne très bien. Grâce au festival, il y a des gens qui sont venus nous contacter. Donc, on a des propositions pour jouer dans d'autres cadres. C'est un programme qu'on va étoffer à deux et qu'on va faire tourner bien. Donc ça, c'est très chouette. Et moi, j'ai des groupes, différents groupes de musique avec des amis un peu plus éclectiques. Et donc, on est en train d'essayer de faire fonctionner des projets d'albums Donc à venir, c'est encore en discussion.
Moi, du coup, j'ai quelques projets extérieurs dans le chant lyrique. Je fais pas mal de musique ancienne dans le cadre du conservatoire. Et je fais aussi partie d'un chœur qui s'appelle le Chœur Lyrique René d'Anjou, où on va jouer notamment le Messie d'Endel là début juin. On l'a déjà joué en mars, et puis on le rejoue en juin. Non. Ce sera à l'église d'Avrier, à l'église de Saumur.
On peut vous retrouver sur les réseaux, les filles.
Moi, ouais, c'est Ambre 2-du-bas RL.
Sur Instagram.
Ouais, sur Instagram.
Et sur Instagram, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Cory avec un K, point Douen avec deux N. Et la photo de profil, c'est pour Ambre, c'est elle-même, et pour moi, c'est moi la harpe. Donc, a priori, vous ne faites pas d'erreur.
Ok, ben merci beaucoup. Ben on va vous réécouter. Et puis à bientôt.
Merci. Merci, à bientôt.
Across a distant shore, why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see, all of your fears will pass away, safe in my sleeping. What can you see on the horizon? Why do the white ghosts call across the sea? Have come to carry you home, and all will turn to silver glass, a light on the water on souls pass. Through shadows falling out of memory and time, don't say we have come now to the end. White shores are calling, you and I will meet again. And you'll be here in my arms, just sleeping. What can you see on the horizon? Why do the white ghosts call across the sea? Come to carry you home.
J'ai entendu des oiseaux, mais ça doit être les pigeons de la place du ralliement. Hein, que... Non, Pierre-Marie, Camille.
Si, 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 tout à fait.
On a quelques minutes pour annoncer des choses qui arrivent.
Bah, la première et le plus gros, et j'en suis désolé, mais c'est les Imaginales qui se passent ce week-end à Épinal, quand même.
Plus grand rassemblement de littérature de fantasy.
Fantasy, oui, oui. Et un peu fantastique, mais globalement fantasy.
Et puis, on aura les Mystériales, donc le week-end d'après, je crois, à Redon, dans le cloître de Redon. C'est beaucoup plus proche d'ici. Avec, bon, on y retrouvera Banquise et Comète aussi. Et Jean-Laurent Del Socorro aussi, par exemple, j'ai vu, sera aussi là-bas. Moi, je voulais dire que je faisais du jeu de rôle avec les Gong Farmers de l'Anjou samedi prochain à la bibliothèque de Belbeil. Je fais jouer Ninja City. Si vous avez peut-être écouté l'actual play qui avait été enregistré pour Radio G avec des membres d'Imaginaire aussi et les voix du Scénarium, c'est sur inscription. Faut téléphoner à la bibliothèque de Belbeil. Et il y a aussi Augustin des Gong Farmers de l'Anjou qui fera du Dungeon Crawl Classics, comme ce week-end d'ailleurs au Salon Imaginaire.
Pour rester dans les choses qui se passent en même temps, le week-end du 5 au 7 juin 2026, il y a les Intergalactiques de Lyon.
Ah ouais,
quand même, un petit peu. Voilà, c'est à peu près tout ce que
j'ai. Et puis le grand bal d'Eldoria, donc ce sera les 13 et 14 juin au château d'Angers, et on espère faire une petite interview des organisatrices qu'on vous diffusera dans la prochaine émission dans deux semaines. On avait quelques bisous à faire.
On a tellement de bisous à faire.
Moi, je fais un bisou à Dolo qui nous écrit sur le chat.
Coucou maman. Et moi, je tenais à dire que bien que Jeanne ne soit pas là ce soir et qu'elle n'ait pas pu venir, je tenais à dire qu'on a préparé cette interview ensemble. Donc voilà, Jeanne, grosse dédicace.
Et moi, de mon côté, toutes mes pensées vont à la superbe équipe restauration bar du salon qu'on a chié avec la chaleur du four et de la météo et qui ont quand même nourri pas loin de 200 personnes par jour. Et je trouve que c'est un excellent score. Alors du coup, Isabelle, Carmen, Catherine et Sonia, merci.
Merci.
Et on termine avec un kit bouche, alors un morceau assez récent, je dirais, enfin 2011, extrait de son 10e album qui s'appelait 50 façons de nommer la neige, parce qu'apparemment chez les Esquimaux, il y a 50 mots pour ça. Et c'était le premier titre où on peut entendre aussi son fils. Je me dis un peu une chanson sur la neige, ça va nous faire pas de mal par ces grandes chaleurs. Bisous, à bientôt.
Bisous.
Bonne soirée.
I was born in a cloud. Millions of snowflakes.